Merci tout d'abord de vous être déplacé ce soir pour cette nouvelle conférence de l'Association des Amis de la Bibliothèque. Alors juste avant de rentrer vraiment dans le corps du sujet, donc à la fois de Saint Junipero Serra et puis de l'actualité des missions aujourd'hui, je vous propose de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait habituel chez nous, mais on s'est dit qu'on pouvait peut-être le faire entre nous. C'est peut-être qu'on fasse un petit temps de silence et qu'on récite à notre Père, compte tenu de l'actualité, donc je n'ai pas besoin de faire un dessin, de ce qui se passe autour de nous, et c'est une manière pour nous de nous associer avec les victimes, avec ce qui se passe aujourd'hui.
Prêt et fort par ici.
Voilà, prêt et fort par ici. C'est quelque chose qui a circulé beaucoup dans les... On peut peut-être un temps de silence et réciter à notre Père. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal.
Sainte Geneviève et Saint Denis, patron de Paris,
priez pour nous.
Et Sainte Élisabeth de Hongrie,
dont c'est la fête aujourd'hui.
La fête aujourd'hui.
Priez pour nous.
Alors, notre soirée va se composer en deux parties. Nous allons tout d'abord avoir la chance et la joie d'accueillir et d'entendre Marie-Cécile Benassi, qui est professeure émérite à l'Université Paris 3. Et qui est une spécialiste de l'histoire et du passé de l'Amérique latine, l'Amérique hispanique.
Hispanique, voilà. Oui, c'est ça.
Elle a déjà écrit sur Junipero Serra, Junipero Serra et sur ses missions. Et c'est à cause de ça qu'elle est repérée. Et elle va nous parler ce soir. Et puis dans un deuxième temps, on fera un saut finalement de 200 ans. Finalement, un saut de 200 ans. On vous parlera plutôt de l'actualité, de ce que sont devenues aujourd'hui ces missions de mission franciscaine de Californie. Marie-Cécile Benassi, merci d'avoir travaillé pour nous.
Oui, alors moi je remercie notre ami Morachini qui m'a ouvert sa bibliothèque, et justement quand je préparais des articles sur, je sais pas, des livres, des articles universitaires sur la Californie et sur les missions de Junipero Serra, je ne sais pas que si je n'avais pas eu le secours de Jacqueline au départ dans la bibliothèque franciscaine du quartier de, également rive gauche là, et la bibliothèque d'ici, je n'ai eu qu'à me réjouir de son accueil, et je suis toute contente d'être ici. Alors avant de commencer, pourquoi Junipero Serra? Il a été canonisé le 23 septembre par notre pape François à Washington. Et alors à la grande joie des 50 millions d'hispano-américains qui sont citoyens ou résidents plus ou moins légaux des États-Unis d'Amérique. Mais c'est, logiquement, cette canonisation aurait dû se faire en Californie. Et alors là, ça aurait été un événement considérable, alors qu'à Washington, pour le reste du monde, c'est passé assez inaperçu. Mais il y avait, depuis les années 30, depuis les premiers procès de béatification, il y a eu du tirage, d'où mon travail d'aujourd'hui. Alors, il s'est même passé cette chose lamentable, mais bien, bien connue dans le milieu universitaire, livres pseudo intellectuels et sérieux et historiques, qui disaient des choses aussi hors de la vérité que de parler de camps de concentration, de génocide ou d'ethnocide pour les missions franciscaines. Bon. Alors évidemment c'est absurde, on n'aura pas de mal à à le montrer. Mais maintenant, il y a quand même un os quelque part dans l'opposition que le parti indien, pour résumer, montre à cette canonisation, enfin béatification, puis canonisation, puisque ça dure depuis 70 ans. Il y a bien un problème que je vais essayer de montrer. Alors maintenant, j'arrive à mon sujet. L'histoire de la Californie, ou plutôt des Californies, car nous devons inclure la basse Californie mexicaine, est aussi singulière que celle de son héros fondateur, le père Junipero Serra, qui a été canonisé récemment. Le nom d'abord, le nom de la Californie, il vient de Califia, reine des Amazones, dans un roman de chevalerie. Pour les Européens, ce lointain nord-ouest fut longtemps une sorte de terre de miracle, un trésor caché que les tempêtes et le brouillard sur la côte pacifique rendaient peu accessible. Tout le monde en rêvait. Par exemple, le père Marquette, célèbre explorateur français, espérait que le Mississippi, rien que ça, pourrait l'y conduire. Ce qui n'est évidemment pas tout à fait le cas. Et en dépit de témoignages incontestables, beaucoup de gens, à la suite du pirate anglais Francis Drake, persistèrent pendant 2 siècles à croire que cette terre était une île. Pour nos ancêtres, l'île... Bon, on pourrait écrire un livre là-dessus, ça a été fait d'ailleurs. La côte avait pourtant été longée très tôt par les marins espagnols. Le cap Mendocino, qui est au nord de San Francisco, a été atteint dès 1542 par Juan Rodriguez Cabrillo, seulement 20 ans après la conquête de Cortés, et il porte le nom du premier vice-roi de Mexico, Antonio de Mendoza. Au passage, le port de San Diego a été lui aussi découvert. Francis Drake arrive plus tard, vers 1579. Il s'en déclare le découvreur, l'apprend pour le roi d'Angleterre et il l'appelle Nouvelle Albion. Au début du XVIIe siècle, le marin Biscaino débarque à Monterrey, explore cette région fertile et donne à une colline boisée le nom de Carmelo. Carmel. Ensuite, il supplie en vain la couronne d'Espagne de peupler cette zone prometteuse. À partir de 1697, seul l'acharnement de quelques jésuites, peu soutenus par les autorités, permet l'installation de missions en Basse-Californie dans l'esprit de celle du Paraguay. L'escorte militaire est directement commandée par les pairs et le financement est assuré surtout par des bienfaiteurs. La capitale est Loreto, sur le golfe. La péninsule est aride et peu hospitalière. La chaîne des missions remonte très lentement vers le nord pendant 70 ans et les jésuites sont loin d'atteindre la zone fertile. Le nombre des Indiens chrétiens tend à diminuer pour des épidémies, on ne sait pas très bien en fait. Lorsque le roi d'Espagne, en 1767-68, chasse les jésuites de son empire, les 15 derniers missionnaires laissent après eux la belle église de San Javier, un certain nombre de bâtiments, mais un résultat modeste, et entre leur départ et l'arrivée de leurs successeurs, les franciscains, les bâtiments mal gardés sont souvent victimes des voleurs. Pour remplacer les jésuites, la couronne d'Espagne s'adresse à la maison franciscaine de San Fernando de Mexico, qui ne dépend pas du patronat royal, mais de la propaganda fide, la propagation de la foi. Donc, ce collège apostolique forme des religieux venus d'Espagne avant de les envoyer dans les provinces du Nord, y compris le sud actuel des États-Unis, pour évangéliser les Indiens nomades et insoumis. Un représentant du roi, José de Galvez, se trouve alors à Mexico en inspection. À ses yeux, la Basse-Californie est surtout une porte d'entrée vers le nord, car le nouveau souci de l'Espagne est d'y devancer les Anglais et les Russes. mais elle n'a pas les moyens financiers qu'exigerait cet énorme enjeu. Galvez est catholique, mais c'est un homme de son siècle, un homme des Lumières. Il va choisir, paradoxalement, pour coloniser les méthodes paternalistes des religieux du XVIe siècle qu'avaient reprises les jésuites, surtout au Paraguay, mais ailleurs aussi. Alors, un petit groupe de franciscains, un chirurgien français, c'est-à-dire plutôt un barbier, un ingénieur des travaux maritimes, quelques dizaines de soldats, voilà comment on prétend s'emparer d'une côte d'à peu près 1000 km. L'arrivée du matériel, y compris les cloches et de la nourriture, se fera par voie de mer. Un gouverneur des deux Californies est nommé, le militaire Portola. Après avoir fondé les missions au nord, il est prévu qu'il résidera à Loreto, dans la Basse Californie. Alors, Junipero Serra s'impose comme l'homme de la situation. En fait, si Galvez n'avait pas eu à sa disposition ce personnage déjà prestigieux, il aurait peut-être modifié ses projets. Alors, qui est-il donc ? Michel Joseph Serra, Michel Joseph, hein, puisqu'il n'est pas castillan, il est majorquin, et c'est une langue parente du catalan. Donc Michel Joseph Serra est né en 1713 au sein d'une famille paysanne modeste. Il connaît les aléas de l'existence et ce ne sera pas du tout un homme désincarné et vivant dans les nuages. Les malheurs du monde, il les connaît en fait. Ce n'est pas une région tellement riche et surtout tellement régulière dans ses récoltes, l'île de Majorque. Alors très jeune, il entre chez les franciscains où il prend le nom d'un disciple de Saint François Genièvre, je crois. Un disciple assez folklorique d'ailleurs. Il est prêtre et docteur en théologie. Alors il est professeur, il a été professeur de philosophie, mais sa philosophie n'est pas du tout moderne. C'est la philosophie scolastique. Il n'a rien à voir avec l'ère du temps, comme vous allez voir. Quand il arrive à Mexico en 1759, il a déjà 46 ans et derrière lui une brillante carrière de professeur et de prédicateur. Mais il est possédé par une vocation irrépressible de missionnaire chez les infidèles, parce qu'il a lu Saint Paul, enfin bref, chez les infidèles. Pendant près de 10 ans, en Nouvelle-Espagne, puisque c'est le nom à l'heure du Mexique, il poursuit son ministère de prédicateur, mais il acquiert aussi une expérience singulière dans une zone écartée du Mexique, la Sierra Gorda, habitée par des Indiens peu hispanisés. Il va désormais porter le titre de président des missions, enfin de toutes ces missions de Basse et Haute-Californie qui sont prévues, mais on lui refuse la fondation d'une custodie. Pendant 16 ans, jusqu'à sa mort, il va continuer à dépendre du couvent de San Fernando à Mexico. En revanche, vu l'éloignement de son évêque, il aura le droit d'administrer la confirmation à partir de 1774. Alors, en 1768, il installe les missions de Basse-Californie. En 1769, trois navires bien chargés font voile vers San Diego, l'actuelle frontière, n'est-ce pas, pour dire sud des États-Unis, tandis que Junipero réalise par voie de terre, entre mars et le 1er juillet, un voyage d'un millier de kilomètres à travers la Basse-Californie. Il a avec lui le gouverneur Portola, des soldats, des Indiens christianisés par les jésuites et des mules. Le groupe fait étape dans les anciennes missions accueillies par un ou deux franciscains qui viennent de s'installer et offrent un confort plus que limité. Ils traversent des zones inconnues et très difficiles. Ils fondent au passage une nouvelle mission au nord de la Basse-Californie, avec une vraie messe de fondation. Et ses rapports occasionnels avec des Indiens païens sont plutôt bons, ce qui n'est pas toujours le cas d'un autre groupe qui voyage en parallèle avec Rivera, le chef militaire, sur un itinéraire un peu différent et qui arrive le premier à San Diego. J'espère que c'était à peu près clair pour l'essentiel. Hein. Parce qu'en une demi-heure, lire tout ça, c'est pas tellement facile. Alors, un des trois navires fait naufrage. Le San Carlos met 3 mois à arriver à San Diego et presque tous les marins vont mourir du scorbut car les tonneaux, non seulement 3 mois c'est beaucoup, le temps devait être épouvantable, ils se sont trompés la latitude et pire, les tonneaux avaient été mal préparés. Donc il y a des tonneaux qui ont perdu, enfin c'est la catastrophe totale. Alors, un autre bateau, le San Antonio, arrive en bon état et bien chargé, mais il doit repartir très rapidement en quête de provisions et en quête de bateaux, puisque le San Carlos ne peut pas bouger, puisque tous les matelots rescapés sont repartis sur le San Antonio. Donc, il va y avoir 8 premiers mois à San Diego absolument terribles. La région est pauvre. Les Indiens chrétiens de Basse-Californie ne comprennent pas la langue locale. Chez eux, comme chez les soldats, il y a des épidémies. Hein ? Les enterrements sont quotidiens. La messe de fondation est beaucoup moins gaie que la précédente. Et alors, incroyable, la première expédition de Portola vers Monterrey par voie de terre est un échec. Hein. Alors imaginez, distance Paris-Grenoble à peu près, et 66 personnes qui vont partir pour fonder à Monterrey, qui est le lieu merveilleux auquel tout le monde aspire, et ils vont rentrer bredouille. Quand il rentre, au bout de 6 mois, quand il rentre, le San Antonio n'est toujours pas revenu. La famine menace. Alors, pratiquement tout le monde, enfin, y compris l'ingénieur des travaux maritimes, pratiquement tout le monde se dit, bon, il faut rembarquer, c'est au-dessus de nos moyens, c'est pas possible. Alors, c'est alors que Junipero acquiert, je peux dire définitivement, sa stature de héros. Il annonce que lui restera de toute façon. Il entame une neuvaine qui doit se terminer le jour de la Saint-Joseph, 19 mars 1777. 70, pardon. Et il demande à Portola d'attendre la fin de la neuvaine pour rembarquer. Et alors, le dernier jour, apparaît le San Antonio, bien rempli, et Portola et tout le monde restent. Cette même année, Portola et Junipero gagnent Monterrey par mer. L'un installe le préside, c'est-à-dire le fortin militaire, et l'autre fonde à côté de Carmelo, à quelques kilomètres, la principale mission dédiée à Saint Charles Borromée, le patron du roi. Oui, Carmelo, ce n'était pas un nom franciscain, alors il fallait... Bon, bah. Voilà. Alors vous voyez, première expédition désastreuse et deuxième expédition, parce qu'il y avait même des gens qui prétendaient que le port n'existait plus, qu'il y avait des sables qui s'étaient répandus, que... Enfin, c'était vraiment... Alors vous voyez, à la fois la santé, les Indiens... qui disait pas grand-chose, la nourriture, le bateau qui n'arrivait pas, enfin, on peut dire que tout était résumé, réuni pour une catastrophe, et ça ne va pas être une catastrophe. Alors, en 1773, les missions de Basse-Californie sont cédées à l'ordre dominicain, et leurs desservants, enfin, au moins une partie des desservants franciscains, rejoignent avec quelque bonheur leurs frères du Nord. En 15 ans, Junipero va établir une chaîne de 9 missions jusqu'à San Francisco et son successeur, le Navarrais Firmin Lassouen en fondera 9 autres entre 1785 et sa mort en 1803. Alors, en quoi consiste ce que j'ai appelé par commodité une mission paternaliste ? C'est une institution qui a longtemps assez bien fonctionné avec des variantes dans les royaumes espagnols d'outre-mer. La couronne confie à un ordre religieux une fraction de territoire indien païen pour une période de 10 ans. Il s'agit de protéger les néophytes des brutalités et aussi des mauvais exemples des colons ordinaires. Les missionnaires doivent rassembler les Indiens à portée de la cloche, puisqu'ils n'ont pas de montre. Ces réductions, on appelait ça souvent des réductions, et c'est à peu près exact, hein, changent parfois beaucoup leur mode de vie et leur résidence. Les frères sont dépositaires des pouvoirs de police et ils n'excluent pas le fouet comme châtiment. Ils dirigent complètement la vie matérielle de leur village. Les Indiens sont provisoirement dispensés de payer la dîme. Même s'il existe un conseil municipal, ils se trouvent dans une sorte d'état de minorité. Les artisans non-indiens sont directement aux ordres des pairs. Et bien entendu, ni les méchants espagnols, ni les méchants mités, ni les méchants mulâtres, ni les méchants esclaves noirs n'ont le droit de s'installer sur le territoire de la mission. Le village est souvent soumis à une discipline qui rappelle un peu le collège ou le couvent. Les fameuses missions jésuites du Paraguay représentent cette formule en grande dimension. Et dans des conditions un peu spéciales, parce qu'il y avait le danger des Portugais à côté, il y avait même une armée indienne, enfin, qui s'est battue une fois pour le roi d'Espagne. Enfin, bon. Alors, en principe, au bout de 10 ans, les missions deviennent des paroisses sous l'autorité de l'évêque. Cette sécularisation, entre guillemets, ne se passe pas toujours sans douleur, et parfois, c'est le cas en Californie comme au Paraguay, il n'y a pas de sécularisation du tout. C'est-à-dire, l'institution se continue. Alors, Junipero applique ce programme à la lettre. Ces missions abritent quelques soldats, des Indiens déjà chrétiens, provenant d'autres missions, et parfois des artisans espagnols. Le gros des militaires réside dans 3 présides à une certaine distance de la mission. Bien entendu, leur rôle est de protection et de dissuasion. Il n'est pas question de faire de conquête armée. Les Indiens sont attirés par des cadeaux, émus par la curiosité. Ils appartiennent à des ethnies variées et ils parlent diverses langues. Mais presque tous sont nus, les femmes couvrant quand même leur sexe. Ils vivent de pêche et de chasse. Le fossé culturel entre eux et les Espagnols est plus que sérieux. Alors, instruit par son expérience de la Sierra Gorda, Junipero va défendre farouchement à la fois son exclusivité dans la tâche de colonisation, son pouvoir sur ses frères et l'exemplarité de ses missions. Il s'opposera toute sa vie à la fondation de villages espagnols. Moyennant quoi, Los Angeles, hein, ville bien connue, est quand même fondée 3 ans avant sa mort avec 11 hommes, 11 femmes et 22 enfants. Mais enfin, il y a très très peu de villages qui sont fondés et très peu d'Espagnols en dehors des missions et des soldats. En 1772, il se rend à Mexico. Et il obtient du vice-roi de l'argent et le droit de faire révoquer le capitaine de la troupe, ce qui ne manque pas d'arriver avec Rivera, qui pourtant avait en son temps été très apprécié des jésuites. Junipero va se battre avec beaucoup de gens et il ne s'entendra jamais très bien avec le gouverneur quand celui-ci, après 1777, deviendra son voisin. Les franciscains, de Californie, dont beaucoup sont majorquins ou catalans, lui sont en général très très dévoués. mais certains demandent à quitter le pays. Et deux d'entre eux se plaindront de son autoritarisme auprès du gardien de San Fernando à Mexico. Le même gardien n'apprécie pas trop que ce président, entre guillemets, ait des contacts au plus haut niveau avec les autorités politiques sans toujours passer par lui. Et l'exemplarité pose aussi des problèmes. Un Indien un peu gradé sera fouetté pour avoir joué le rôle de proxénète au service des soldats du préside, faute de bordel militaire de campagne. Les soldats sont fortement incités à épouser des Indiennes, mais cela suppose une certaine stabilité géographique. Il y a eu de très bons ménages, hein, et puis de bons petits métis, évidemment, mais en petit nombre. Mais ramener une Indienne de Californie à Mexico, même pour un soldat, c'était quand même un petit peu difficile. Alors, les fugitifs, les Indiens fugitifs, les convertis fugitifs, sont poursuivis et punis, mais sans jamais dépasser les fatidiques 25 coups de fouet, au-delà desquels ça devient une maladie d'être fouetté. Et alors, même les militaires, quand il faut partir à la recherche de néophytes déserteurs, ne sont pas très fanatiques pour faire ce travail, en plus de... On ne sait pas si c'est pour des raisons idéologiques ou tout simplement parce que ça vient en plus de leur service. En fait, du temps de Junipero et de son solide successeur, le Navarrais Fermín Lasuen, les missions se développent, s'enrichissent et fonctionnent bien, mais pour une portion de la population indienne, jamais plus de 20 000 personnes. On ne compte qu'une seule révolte grave et sanglante à San Diego dès 1775. Trois Indiens païens et deux néophytes mènent une troupe de païens qui brûlent la mission. Sont assassinés un missionnaire et deux artisans. L'autre franciscain a pu se cacher avec l'aide des soldats, mais enfin il n'était que quatre, et des Indiens fidèles. C'est-à-dire que ça n'est pas l'ensemble de la mission qui s'est révoltée, mais c'est un millier d'Indiens païens qui ont attaqué. Junipero est très affecté, son trop robuste optimisme de départ est un peu entamé, mais il reconstruit aussitôt la mission, mais qui ne sera jamais ni très peuplée, ni très sûre. Ça n'a jamais été la meilleure mission, San Diego. Junipero meurt à Carmel en 1784. Son grand ami et biographe, Palou, lui succède. Quand peu après Palou est élu gardien à Mexico, il est remplacé par Fermín Lasuen. Cette nouvelle présidence est presque une sorte d'âge d'or, avec des constructions d'églises en dur, des fondations dans la riche région de Santa Barbara, peuplée d'une population particulièrement intéressante, les Chumash. Lasuen fonde même une bibliothèque, la première bibliothèque de Californie. Lasuen a été injustement oublié. Inévitablement, Junipero lui a fait de l'ombre. Moi, je le béatifierais volontiers, hein, Lasuen. Enfin, il a un défaut, il a toutes les qualités, cet homme. Alors, c'est peut-être trop, je ne sais pas. Alors, ce Navarrais est beaucoup plus diplomate que Junipero et s'entend beaucoup mieux avec les militaires. Nous avons heureusement sur lui des témoignages de marins qui font escale en Californie. L'illustre français La Pérouse en 1776. Le naturaliste espagnol Malaspina en 1791. Et, last but not least, l'anglais George Vancouver, que je prononce à la française, en 1792. Bien entendu, ils n'ont pas pu tout voir, mais ils sont prolixes sur ce qu'ils ont vu. Leur mentalité est celle de l'époque, les Lumières. Ils sont choqués du manque de liberté des Indiens, mais aucun ne découvre chez eux des signes de mauvaise santé. Ils apprécient l'hospitalité des franciscains et les danses ou pantomimes indiennes. Ils sont tous édifiés par la tenue morale des religieux et surtout par la personnalité du président Lassouen. Chez Vancouver, l'estime se mue en une véritable vénération. Il va même gratifier son hôte d'une présence sur la carte de Californie, Point Fermin, un petit cap au sud de Los Angeles, à côté de San Pedro et de Long Beach ou d'un truc comme ça, enfin, au sud de... C'est encore sur les cartes de maintenant. Il y en avait une deuxième, Point Lassouen, mais je n'ai pas été capable de retrouver Point Lassouen, qui s'est peut-être perdu avec le temps. Alors, cet Anglais protestant, à qui une circonstance diplomatique exceptionnelle a permis de pénétrer en territoire espagnol, n'avait aucune raison de faire des cadeaux à un franciscain. Alors, ces gens qui ont parlé de génocide, hein, et qui traiteront les missions de camps de concentration, feraient bien de lire le récit de voyage de Vancouver, qu'il faut lire en anglais, mais je vous préviens tout de suite que c'est de l'anglais très facile. Alors, à la fin de sa vie, Lassouen doit déjà se défendre contre une accusation injustifiée d'exploiter les Indiens. Il répond que la journée de travail n'atteint pas 6 ou 7 heures, que les punitions ne dépassent pas 25 coups de fouet. On touche ici quand même le vrai problème. Oui, d'ailleurs, ils vont quelquefois à leur ranch d'origine. Il y en a quand même qui arrivent à avoir une femme chrétienne dans un endroit et puis une femme païenne dans un lieu un peu plus écarté. Enfin bref, je ne suis pas ethnologue, hein, alors vous me trouverez pauvre, mais enfin je fais mon job, hein, pas les autres. Alors on touche ici le vrai problème. La mission conçue pour le bonheur céleste des Indiens convient en fait moins bien à leur bonheur terrestre. Ils ont peu d'enfants, c'est surtout ça. Ou ils perdent beaucoup d'enfants en bas âge. C'est pas des désastres, mais c'est une tendance lente à la diminution de la population, qui est évidemment assez démoralisante pour les missionnaires, même s'ils peuvent évidemment s'étendre ailleurs. Mais enfin, leurs Indiens, ceux qu'ils aiment bien, ceux qu'ils connaissent, bien entendu, c'est les premiers dans leur cœur. Alors, à la longue, parce qu'évidemment, il faut voir ce qu'était la médecine de l'époque, on finit par voir que le régime alimentaire trop riche et le rythme de vie conviennent assez mal à leur santé. Par exemple, le lait. Quand on est en panne, il y a des troupeaux magnifiques. Bon, alors, tout le monde se nourrit avec du lait. Et les Indiens, ce n'était pas du tout leur affaire. Le successeur de Lassouen, alors là, déjà au XIXe siècle, hein, Payeras, avouera avec douleur que les Indiens païens sont plus gais et plus beaux, et il ne dit pas en meilleure santé, il dit plus gais et plus beaux que ceux des missions. Moyennant quoi, au XIXe siècle, les Indiens païens, qui sont très majoritaires, disparaîtront tout comme les autres. Alors, cette histoire de génocide des franciscains, c'est absolument grotesque, puisque les autres n'ont pas mieux survécu à la longue. Alors, je change de siècle, hein, la belle période, mais qui est quand même le fruit du Nipéro, parce que tout ça, c'était complètement mis en place quand il est mort. Alors, bon, on est passé à 5000 gros bétail, à 15000, mais tout avait été mis en place par Junipero, ça. Malgré mon grand amour pour Lassouen, je le reconnais volontiers. Mais alors, le nouveau siècle voit chez les Indiens des épidémies qui accentuent la chute démographique, mais rien de commun avec les vrais massacres qui auront lieu plus tard, à partir de 1849, à l'époque de la ruée vers l'or, quand la Californie appartient aux États-Unis. Un prêtre belge de Smet dira que leur population a diminué des deux tiers entre 1849 et 1862, passant de 100 000 à 30 000. Tout se ligue au XIXe siècle pour la liquidation des missions. Déjà, la relève des religieux n'est plus assurée et les pères doivent faire gérer les missions par des laïcs. Bientôt, en proie aux guerres d'indépendance, le vice-roi n'envoie plus de bateaux. Quand, en 1821, le Mexique prend son indépendance, il est bien incapable de prendre en charge sérieusement la Haute-Californie. En 1834-35, les dernières missions sont sécularisées, les exploitations confisquées, vendues ou abandonnées. Les Indiens reçoivent des miettes qu'ils ne sont naturellement pas capables de conserver. En ce début de siècle, au lieu d'Espagnols, débarquent des marins anglais déserteurs, des aventuriers divers, et aussi, faut reconnaître, des médecins et des vignerons français qu'on espère un peu plus honnêtes. Mais bientôt, une petite immigration venue des États-Unis. Certains se font catholiques pour prendre la nationalité mexicaine. Et bien alors, les missions ont fini par ressembler à ces ranchs que Junipero détestait tant. Les loutres abondent dans la mer et on se met à vendre leur fourrure aux Chinois. Et quand une entreprise trop prospère manque de main-d'œuvre indienne, il est peut-être tentant de faire des petites razzias dans les populations restées païennes. C'est cette période interlope qui a laissé quelques mauvais souvenirs dans la mémoire populaire locale et qui est à l'origine de la légende noire des missions. Il faut dire qu'une légende rose existait depuis longtemps. Junipero, à Mexico, on a publié sa biographie, il est déjà célèbre. Et en Espagne, je pense un peu aussi. Mais alors, il y a en parallèle la légende rose aux États-Unis. En quête de racines, les Yankees ont vu en Junipero un pionnier intrépide comme ils les aiment. Hors de toute piété catholique, on a commencé à restaurer des missions ruinées. Lincoln lui-même a rendu des églises au clergé. En outre, à partir des années 1880, des personnes qui trouvaient leur propre société trop matérialiste se sont entichées des missions franciscaines dans une sorte de rêve romantique qui se traduit par des romans ou des récits pseudo-historiques. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot « mission » acquiert une espèce de sacralité que les touristes de maintenant, ça les frappe beaucoup. Surtout ceux qui connaissent un petit peu l'affaire. Il était normal que le projet de béatification à partir des années 30 suscitât des réactions. Mais on ne doit pas attribuer aux fondateurs des maux futurs qu'ils ne pouvaient soupçonner. Parce que bon, le problème ethnologique fondamental, ben, il l'a pas vu, quoi, évidemment. Mais comment l'aurait-il vu? Il n'avait pas les instruments pour ça. Alors aussi, il faut voir les responsabilités politiques qui, même après la mort de Junipero, n'ont presque pas peuplé le pays. C'était quand même au roi d'Espagne de s'occuper de ses affaires. Et s'il n'était pas d'accord avec les franciscains, il pouvait parler un petit peu plus fort. D'ailleurs, je n'ai pas entendu dire que la Suède avait fait tellement d'histoires. Mais enfin, je connais mal, hein, je connais pas à fond l'époque politique, la Suède. J'ai plutôt étudié l'époque de la... extraordinaire de la... fondation. Alors, quant à l'accusation d'ethnocide culturel, elle est plus qu'imméritée. Junipero n'employait pas les mots barbare ou sauvage, mais il employait les anciens termes gentil ou infidèle. Il respectait ces populations californiennes et il conserva leur danse, leur talent et leurs coutumes autant qu'il le jugeait possible. Pour son époque, et surtout son époque intellectuelle, il a pratiqué plutôt bien le métissage culturel. Dans l'anéantissement du XIXe siècle, on subsistait longtemps, surtout à Monterrey ou à Santa Barbara, des groupes indiens de musique religieuse, sans doute créés par Narciso Duran, un des derniers présidents qui était un bon musicien. Alors je vous recommande la lecture de certains romans de Steinbeck, je ne sais pas comment on prononce, alors je vous dis à un dieu inconnu en particulier, qui montre bien dans les fermes, même protestantes, tous les restes culturels de cette empreinte. Franchement, au point de vue ethnocide culturel, il ne pouvait pas faire mieux que ce qu'il a fait. Alors, le paradoxe du cas de Saint-Junipero, c'est qu'il a été béatifié en 1988, au moment même où ses méthodes d'apostolat étaient vues comme obsolètes et irrecevables. Il a été une icône civile avant de l'être pour l'Église, ce qui brouille un peu les repères. Il ne peut servir de modèle comme à l'accoutumée, mais on peut l'admirer aussi comme homme. Le style de ses longues lettres n'est pas du tout celui d'un fanatique. Il a de l'humour. Et Bon, alors je ne parlerai pas de ses pénitences, de sa fameuse blessure à la jambe, parce qu'on ne sait pas très bien faire la part des choses entre la géographie et la réalité. Je vous dirai ce que j'ai vu. Hein. Il est très discret sur ses méritoires expéditions, dans son courrier, avouant seulement parfois un peu de fatigue. Mais ses sentiments de fraternité avec les autres franciscains, surtout ses anciens compagnons ou élèves, s'expriment avec beaucoup de force. Son amour pour ses Indiens est indiscutable. Quand le jeudi saint, à la Sierra Gorda, il lave les pieds à 12 vieillards, il dîne ensuite avec eux. Et le plus remarquable, si l'on tient compte de l'époque, c'est son hostilité à la peine de mort. Il l'a exclue pour les assassins du père Jaime à San Diego. Et il a demandé par écrit à ses supérieurs que s'il était lui-même martyrisé, on épargnât la vie des coupables. Et sa grande fierté a été d'administrer la confirmation à plusieurs assassins de San Diego, 3 ans après la tragédie. Alors, vous me donnez 2 phrases encore. Disons surtout que les voies de Dieu sont impénétrables. Les missions de Saint Junipero Serra ont pu être une impasse dans une certaine mesure. Politiquement, il a travaillé pour les États-Unis protestants. Ah, il a fondé la Californie, c'était le frému ensuite pour les braves anglos. Hein. Mais, son action a été providentielle au siècle suivant, et depuis 1920, hein, pas seulement pour les films que l'on voit maintenant. Les immigrés chrétiens hispano-américains, qui génération après génération, se retrouvent chez eux dans les églises empisées de villes qui portent des noms espagnols. Et pour eux, la canonisation est une évidence. Il a travaillé pour le futur. Merci beaucoup.